Direct en jeu, la radio insolite, je retrouve mes premiers amours, cette tête 2019. J'avais investi le Grand Albion parce qu'il y avait une expo de créatrices de mode made in Cannes. Et là, je suis avec Frédéric. Alors attention, je ne suis pas avec n'importe qui parce qu'il me fait découvrir un métier que je ne connaissais même pas. Alors, que fais-tu dans la vie, s'il te plaît, Frédéric?
Eh bien, il se trouve que j'exerce l'étrange métier de plasticien éventailliste. Alors pourquoi plasticien? Parce que la démarche est avant tout artistique, et éventailliste parce que c'est un des plus beaux fleurons de l'artisanat parisien dès la fin du XVIIe siècle, puisque c'est Louis XIV et Colbert qui créent la corporation des éventaillistes.
Dis-moi, éventail, mais je ne savais pas que c'était... C'est une mode, c'est quoi?
Alors ça a été un objet de mode très important, mais... plus quelque chose qui plaçait la hiérarchie des femmes à la cour pendant toute la production du 18e. Et après, on pourra vraiment parler d'accessoires de mode à partir du 19e jusqu'aux années 20, 30, 40 du 20e siècle. Mais ça a été surtout un objet qui a fait appel à des artistes qui ont créé des œuvres originales. Et c'est vraiment la démarche vers laquelle je me dirige actuellement.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans?
Alors moi, je viens plutôt des Beaux-Arts, et en fait, ça paraît un peu étrange si on n'a pas de visuel pour faire le lien, mais c'est mon travail sur la gravure érotique qui m'a amené à m'intéresser à l'éventail, parce qu'il se trouve que le premier nom de l'éventail, dès le début de la production parisienne, on va appeler l'éventail le paravent de la pudeur, et ça, c'est directement issu des tissages coptés chrétiens qui représentaient le premier homme et la première femme avec un faisceau de feuilles de figuier déployé en éventail et placé en paravent de la pudeur. Et cet objet est censé correspondre au moment où on a différencié les hommes et les femmes et où on est devenu des êtres mortels se reproduisant sexuellement. Donc si on pense à l'éventail dans cette optique-là, on est déjà sur des enjeux de séduction, de pudeur, de regard, de genre qui dépassent complètement l'usage. Et si on remonte encore dans son archéologie, au départ, l'éventail aurait même plutôt été destiné aux hommes et on l'aurait trouvé soit dans les mains du chef de guerre, soit dans les mains du prêtre, parce que ce n'est pas l'objet en lui-même qui compte, mais le fait qu'il matérialise le déplacement de l'air. Donc c'est la métaphore du souffle, de la parole, de la règle, du pouvoir et de la transcendance spirituelle, quelles que soient les confessions.
D'après ce que j'ai compris, vous êtes très nombreux quand même dans le monde entier à avoir... Ah ben là, il y a le téléphone qui sonne. C'est ce qu'on appelle les choix du direct. Je disais, oui, vous êtes très nombreux dans le monde entier quand même à exercer ce métier.
Alors on va trouver différentes maisons qui font de l'éventail. Évidemment, l'Espagne continue à produire, mais fait essentiellement de l'utilitaire. Mais à faire de la pièce unique et avoir une démarche réellement artistique sur cet objet-là, on est trois dans le monde.
Vous êtes nombreux, quoi.
Trois, ça commence à faire une équipe.
Je ne sais pas quel sport, mais ce n'est pas grave, mais vous pourrez quand même faire. Alors, ce qui est assez original, c'est que toi, tu t'occupes de la maison Alexandre, qui est une maison, si j'ai bien compris, qui date du 19e siècle, et qui avait, je ne veux pas dire disparu, mais qui s'était endormie. Et puis là, d'un coup, tu te dis, allez hop, je relance.
En fait, moi, je suis à mon compte depuis plus de 25 ans, après 10 ans d'études d'art qui m'ont amené à un parcours de formation auprès du dernier maître d'art éventailliste qui était sur Paris. C'était l'atelier à Noguet. Et je travaille pour une grande maison qui fait que des éventails, et essentiellement dans l'univers du luxe. Mais le projet de reprendre la maison d'Alexandre, qui était vraiment la plus belle maison d'éventail française, qui avait ce concept d'envisager l'éventail comme une œuvre d'art avant de l'envisager comme un accessoire. L'intérêt de se nourrir de cette aura patrimoniale, c'est de pouvoir asseoir justement l'identité spécifiquement française de la production, mais l'ouvrir à des techniques et à des matériaux ultra contemporains, et de ne repartir que dans le principe de la pièce unique, exceptionnelle, qui est plutôt pensée comme une sculpture ou comme une peinture, mais dont on peut se saisir et dont on peut se parer.
Je suppose que toutes les artistes, toutes les stars montent les marches du palais des festivals avec un éventail.
Alors, ça arrive, effectivement, mais l'éventail et le cinéma, il y a un lien qui est très important sur les mondanités, même si j'aime pas vraiment ce nom. C'est vraiment un signe distinctif. Après, cette année, nous, on n'a pas fait le choix de chercher à tout prix une montée des marches avec un grand nom. On est plutôt en train d'essayer de, de trouver des partenaires qui sont intéressés par cette démarche avant tout artistique, plus que lié vraiment à l'accessoire de mode. Moi, quand je vais créer un éventail, je ne vais jamais faire un éventail qui va s'accessoiriser avec une tenue. Ça va être une pièce qui prolonge la tenue et qui dit quelque chose sur la personnalité de la personne qui l'utilise. Homme ou femme d'ailleurs, parce que c'est vraiment un objet qui est à la frontière du féminin et du masculin, et on est très loin de l'objet de princesse ou de l'accessoire ultra féminin du 19e siècle. On s'en nourrit bien sûr, ça fait aussi partie d'un département de notre travail, mais c'est pas le seul axe.
J'ai demandé justement ton inspiration quand tu crées un éventail. Tu rencontres la personne qui le veut, tu colles à son actualité, tu colles à sa tenue, comment ça se passe ?
Alors les deux sont possibles. Généralement, comme on est très peu nombreux, dans la plupart des cas, on va s'entendre sur une couleur, sur un matériau, sur une histoire, mais je suis entièrement libre de mes créations. Avec la maison Alexandre, on va sans doute évoluer et peut-être faire un peu plus de sur-mesure, mais toujours en essayant de véhiculer à la fois l'identité de la marque et de sublimer la personne qui portera cet éventail-là. Donc ça m'arrive de travailler sur commande, hein, et c'est notamment le cœur de notre partenariat avec Hall et la raison pour laquelle on est au Gré d'Albion aujourd'hui. J'ai eu la chance, indépendamment de la maison Alexandre, d'avoir été contacté par le musée de l'éventail londonien pour créer un éventail commémoratif pour le couronnement de Charles et Camilla. Et en fait, Hall a eu entre les mains cette photo où je tiens cet éventail commémoratif du couronnement, et ça l'a inspiré pour faire un tableau. Donc du coup, pendant et l'exposition et tout l'été, on présente le tableau et une copie de cet éventail. J'ai eu l'autorisation du musée et de la cour de pouvoir refaire cette pièce, donc elle est présente pendant tout l'été à la galerie du Gré d'Albion.
Alors là, on est en plein Festival de Cannes. Est-ce qu'il y a des éventails sur le thème du cinéma ?
Alors, pas directement cette fois-ci. On a emmagasiné pas mal de photos avec différentes personnalités sur le festival, mais ça, on va les dévoiler au fil du temps sur nos différents comptes Insta.
Alors, comment on fait pour voir ces comptes Insta, justement ?
Alors, la maison Félix Alexandre a un Instagram. Moi, en tant qu'artiste, si vous vouliez découvrir le travail que j'ai en amont, bah, le mien, c'est Frédéric CK, Y comme Yvan, M comme Manuel et G, G-A-Y. Et là, c'est parce que moi, je me retrouve, en fait, je vais être le chef d'orchestre de la Renaissance de la maison Alexandre. Et après, l'Instagram de la maison Alexandre, c'est Félix Alexandre, tout simplement.
Et dernière question, alors c'est toujours la même question qu'on met à Cannes. Quel est ton rêve ?
Mon rêve ? J'en ai eu beaucoup, j'en ai réalisé beaucoup. Là, je suis en train de bâtir toute une collection sur un thème égyptien. Et ça fait partie d'un des développements qu'on a entrepris avec la maison Félix Alexandre. C'est-à-dire que j'allais en Égypte depuis une vingtaine d'années. Et là, je viens d'y passer 3 mois. Où j'ai travaillé au musée du Caire, et puis j'ai bourlingué un petit peu d'Alexandrie jusqu'au lac Nasser, dans le but de collecter un maximum d'inspiration pour bâtir cette collection égyptienne et revenir aux sources de la symbolique intemporelle de l'objet.
Eh bien, merci.
Merci à vous. Bel été.